afin de persuader le monde entier de l'insuffisance des ressources qu'elle trouverait dans la confiscation des biens de l'Église, l'Assemblée nationale procéda à celle d'une autre nature de biens, celle des charges, chose que sous aucun prétexte elle ne pouvait faire sans rembourser les propriétaires de ces charges, et cela encore sur la grande confiscation des terres de l'Église. Elle rejeta ce nouveau fardeau sur le fonds qu'elle devait montrer exempt de charges et dont elle devait apurer le revenu. Il faut compter en première ligne tous les offices de la magistrature et ensuite les autres offices supprimés. Je ne puis pas assurer positivement quel est le montant de tous ces remboursements réunis, mais je suis certain qu'ils s'élèvent à beaucoup de millions, monnaie de France. Une autre nouvelle charge à acquitter est celle de 480 000 livres sterling d'annuité à payer chaque jour, si elle veut tenir sa parole, pour les intérêts des premiers assignats. L'Assemblée s'est-elle jamais donné le plaisir d'établir de bonne foi les dépenses de l'administration des biens de l'Église, qu'elle a jugé à propos d'abandonner au savoir et à l'intelligence des municipalités, et à la légion innombrable de tous ces sous-ordres obscurs, malgré tous les inconvénients si évidemment démontrés par M. l'évêque de Nancy, M. de la Fare. Mais il est inutile de s'arrêter sur tous ces points de surcharge évidente. L'Assemblée a-t-elle rien fait encore pour mettre au jour la plus grande de toutes, celle de tous les établissements municipaux de diverses espèces? Pour tous les vides de cette nature que l'on doit remplir, on a recours aux biens de l'Église. Et cela, toujours avant qu'aucun créancier puisse planter ses choux sur un arpent de la propriété de l'Église. Elle n'a pas d'autre été que cette confiscation pour empêcher tout l'État de tomber en ruine. Dans une telle situation, on a soigneusement enveloppé à dessein, d'un brouillard bien épais, tout ce qu'elle aurait dû éclairer avec soin. C'est alors qu'aveuglés eux-mêmes, comme des taureaux qui ferment les yeux quand ils prennent leur élan, ils forcent, à la pointe des baïonnettes, tous leurs esclaves, aussi aveugles que leurs maîtres, à prendre des fictions pour des réalités et à avaler de leurs pilules d'assignat à la dose de 34 millions de livres sterling. C'est après cela qu'ils élèvent leurs prétentions à un crédit futur sur la violation de tous leurs engagements passés. Et au moment où il est clair, si dans une telle matière quelque chose peut être clair, que le surplus des biens ne répondra jamais même à la première de leurs hypothèques, je veux dire à celle des 400 millions, 16 millions sterling, d'assignats. Je ne puis remarquer dans aucun de leurs procédés ni la simplicité de la bonne foi, ni la subtile dextérité d'une fraude ingénieuse. On n'a pas encore répondu aux reproches faits dans le sein de l'Assemblée de lever les écluses de la fraude. Mais il a été réfuté de fond en comble par 100 000 financiers dans la rue. Ce sont là les nombres avec lesquels opèrent ces métaphysiciens arithméticiens. Ce sont là les grands calculs sur lesquels le crédit public philosophique est établi en France. On ne peut plus élever le subside, mais on y lève de la canaille à volonté. Laissez l'Assemblée se réjouir des applaudissements du club de Dundee pour avoir ainsi employé avec tant de sagesse et de patriotisme au profit de l'État le pillage des biens des citoyens. Je n'ai pas entendu dire que les directeurs de la Banque d'Angleterre lui aient adressé de compliments sur ce sujet, quoique leur approbation pût avoir un peu plus de poids dans la balance du crédit que celle du club de Dundee. Mais pour rendre justice à ce club, je crois que ceux qui le composent sont plus sages qu'ils ne le paraissent, qu'ils seront moins prodigues de leur argent que de leurs éloges, et qu'ils ne donneraient pas grand comme l'oreille d'un chien de leurs plus déchirés et plus chiffonnés papiers écossais pour 20 de vos plus beaux assignats. Au commencement de cette année, l'Assemblée a créé pour 16 millions sterling d'assignats. En quel état l'Assemblée avait-elle donc réduit vos affaires pour qu'un secours aussi immense fût cependant presque insensible? Ce papier ne tarda pas à perdre aussi 5%, et bientôt après 7%. L'effet de ces assignats sur le revenu public est très remarquable. M. Necker s'aperçut que les receveurs des impositions qui se faisaient payer en argent payaient le trésor royal en assignats. Il gagnait 7% à cette opération. Il n'était pas difficile de prévoir ce résultat inévitable. Cependant, il n'en était pas moins embarrassant. M. Necker a été obligé de faire acheter des matières d'or et d'argent, je crois que la plus grande partie a été achetée à Londres, pour les faire frapper à la monnaie. Et cette opération coûta environ 12 000 livres sterling au-delà de la valeur de ces matières. Ce ministre pensait que, quelle que fût la vertu nutritive secrète attachée à ces papiers, l'État ne pouvait pas vivre d'assignats seulement, que quelque argent sonnant était nécessaire pour la satisfaction de ceux qui, ayant du fer bien tranchant dans leurs mains, ne se feraient vraisemblablement pas remarquer par leur patience lorsqu'ils verraient que cette augmentation de paix, qui leur avait été promise en bonne monnaie, leur serait frauduleusement soustraite par l'effet d'un papier sans valeur. Le ministre, dans cette véritable détresse, s'adressa à l'Assemblée pour la prier d'ordonner aux receveurs de payer en espèces ce qu'ils auraient reçu en espèces. Il ne pouvait pas échapper à son calcul que si le Trésor payait 3% pour l'intérêt d'un cours qui devait être compensé pour 7%, ce qui était au-dessous du taux où il avait été émis par le ministre, un tel marché ne pourrait pas enrichir le public. L'Assemblée n'eut aucun égard à sa représentation. Elle établit ce dilemme. Si l'on continue à recevoir des assignats, on ne verra plus paraître d'espèces au trésor public. Si le trésor public refusait ses papiers amulettes ou cessait de les protéger jusqu'à un certain degré, c'était décréditer leur seule ressource. Dans cette position, il paraît que l'Assemblée a fait son choix et qu'elle a préféré de soutenir ses assignats en les prenant elle-même. Alors, dans les discours que l'on y prononça, elle eut soin de débiter quelques rodomontades, surpassant en cela les bornes de la compétence législative, pour établir qu'il n'y a pas de différence entre la valeur des assignats et celle des espèces. C'est là un bon et illustre article de foi mis à l'épreuve, prononcé sous peine d'anathème par les vénérables pères de ce système philosophique. Crédat qui voudra, ce ne sera sûrement pas Iudeus Sapella. Horace, Satire 5. Les esprits de vos chefs populaires se soulèvent d'indignation s'ils entendent comparer leur lanterne magique financière avec toutes les illusions trompeuses de l'as. Ils ne peuvent pas supporter que l'on mette sur la même ligne les sables de son Mississippi et le rocher de l'Église sur lequel ils bâtissent leur système. Dites-leur, je vous prie, de contenir cet esprit si fier jusqu'à ce qu'ils aient montré au monde quelle est cette base si solide pour leurs assignats, dont toutes les parties ne soient pas déjà grevées par d'autres charges. Ce n'est pas rendre justice à cette grand-mère de leur fraude que de la comparer avec ce qui n'en est qu'une imitation dégénérée. Il n'est pas exact de dire que le système de l'as ne fut fondé que sur la spéculation du Mississippi. Il y ajouta le commerce d'Afrique. Il y ajouta les fermes de tout le revenu des impôts de la France. Toutes ces choses réunies n'étaient certainement pas capables de supporter la structure énorme que l'enthousiasme public, et non l'Écossais, se proposait d'élever sur ses bases. Mais du moins, ces illusions avaient, rapprochées de celles-ci, quelque chose d'imposant. Elles avaient pour objet, et elles faisaient supposer en effet, une extension considérable du commerce de France. Elle lui ouvrait des communications dans les deux hémisphères. Il ne s'agissait pas d'alimenter la France de sa propre substance. Une grande imagination pouvait être séduite par ce vol étendu que l'on faisait prendre au commerce. Il y avait de quoi éblouir le regard d'un aigle. Il n'était pas destiné, comme l'est votre projet, à solliciter l'odorat de la taupe qui s'ensevelit et se nourrit dans son trou. Les hommes, alors, n'étaient pas totalement rapetissés dans leur dimension naturelle par une philosophie dégradante et sordide et propre aux illusions basses et vulgaires. Rappelez-vous, surtout, qu'en s'adressant à l'imagination, ceux qui conduisaient alors ce système rendirent un hommage à la liberté des hommes. Leur fraude n'avait pas la force pour compagne. Il était réservé, de nos jours, d'éteindre les faibles lueurs de la raison qui pourraient percer au travers de l'obscurité opaque de ce siècle éclairé. Je me rappelle que je n'ai rien dit d'un plan de finances que l'on peut citer en faveur du talent de ces messieurs et qui a été proposé avec une grande pompe, quoiqu'il n'ait pas encore été définitivement adopté par l'Assemblée nationale. Il se présente au moins avec quelque chose de solide pour soutenir la circulation du papier-monnaie, et l'on a beaucoup vanté son utilité et la beauté de l'invention. Je veux dire le projet de fondre toutes les cloches des églises supprimées pour les envoyer à la monnaie. Voilà leur alchimie. Il y a des extravagances qui déconcertent tout raisonnement, qui vont au-delà du ridicule et qui n'excitent d'autres sentiments que le dégoût. En conséquence, je n'en parlerai plus. Toutes les manœuvres d'une fraude mercantile, tous ces renvois de la caisse d'escompte au trésor public et du trésor public à la caisse d'escompte pour reculer autant qu'il se pourra le jour fatal, toutes ces vieilles ruses, enfin, qui sont devenues la politique de l'État, ne méritent pas davantage que j'étende de plus loin mes remarques. Toutes ces paroles ne changeront pas la nature du revenu, et l'on ne prendra pas en paiement pour un biscuit de mer ou pour une livre de poudre à canon toutes celles que vous pourriez dire sur les droits de l'homme. C'est donc ici que vos métaphysiciens descendent de leurs spéculations aériennes et que de bonne foi ils suivent les exemples. Quels exemples ? Des exemples de banqueroute. Mais quoique disgraciés, bafoués et humiliés, quand leurs forces, leurs inventions et leurs idées les abandonnent, leur suffisance ne les abandonne pas. Leur faillite même est pour eux le prétexte d'un nouveau crédit de bienveillance. Lorsque le revenu disparaît dans leurs mains, ils ont la présomption, dans quelques-unes de leurs dernières opérations, de s'en faire un mérite, comme d'un soulagement procuré au peuple. Ils n'ont nullement soulagé le peuple, s'ils en conservaient l'intention, pourquoi ont-ils ordonné que l'on payât des taxes qui lui étaient à charge? Le peuple s'est procuré lui-même ce soulagement en dépit de l'Assemblée. Mais en écartant toute discussion entre les personnes qui peuvent prétendre au mérite de ce secours frauduleux, le peuple a-t-il en réalité reçu quelque soulagement? M. Bailly, un des grands agents de la circulation du papier, vous met sur la voie de la nature de ce soulagement. Son discours à l'Assemblée nationale renfermait un panégyrique sublime et académique consacré à la constance inaltérable avec laquelle les habitants de Paris avaient supporté leur détresse et leur misère. Quelle belle peinture de la félicité publique! Quoi, un grand courage et une fermeté invincible pour endurer des bienfaits et pour supporter des réformes? À en juger par le discours de ce savant Lord Mayor, on dirait que les Parisiens auraient gémi pendant ces 12 derniers mois dans les horreurs d'un nouveau blocus. Que Henri IV avait arrêté de tous les côtés l'arrivée de leurs vivres et que Sully tenait à leur porte avec son artillerie. Tandis qu'en réalité, aucun autre ennemi ne les assiège que leur propre folie, leur propre crédulité et leur propre corruption. Mais M. Bailly fondra plus promptement les glaces éternelles de ces régions atlantiques qu'il ne pourra rendre à Paris sa chaleur centrale tant que cette ville sera amourachée des masses glacées, arides et pétrifiées d'une philosophie aussi trompeuse que les dénuées de sentiments. Quelque temps après ce discours, c'est-à-dire le 13 du mois d'août dernier, dans le compte de son administration, il s'exprima ainsi. Dans le mois de juillet 1789, époque dont le souvenir sera éternel, les finances de la ville de Paris étaient encore en bon ordre. La dépense était balancée par la recette et elle avait alors 1 million en fonds. La dépense qu'elle a été obligée de faire, en conséquence de la Révolution, se monte à 2 500 000 livres. De ces dépenses et du décroissement énorme des dons gratuits est résulté non pas un manque accidentel, mais un manque absolu d'argent. Fin de citation. Voilà ce pari en faveur de la nourriture duquel on avait, dans le cours de l'année précédente, sacrifié des sommes si énormes aux dépens de toutes les provinces du royaume. Aussi longtemps que Paris tiendra la place de l'ancienne Rome, il sera alimenté par les provinces qui lui sont soumises. C'est un mal inévitablement attaché à la domination des républiques démocratiques souveraines. Ce mal, ainsi que Rome en a fourni un exemple, peut survivre à la domination républicaine qui lui a donné naissance. Dans ce cas, le despotisme lui-même est obligé de se soumettre aux vices de la popularité. Rome, sous ses empereurs, réunissait les maux attachés aux deux systèmes, et cette combinaison monstrueuse fut une des grandes causes de sa ruine. C'est une imposture cruelle et insolente que de dire au peuple que la dilapidation du revenu public est un avantage pour lui. Des hommes d'État devraient, avant de se vanter d'avoir procuré quelque soulagement au peuple par la destruction du revenu public, avoir attentivement réfléchi à la solution de ce problème. Est-il plus avantageux au peuple de payer beaucoup et de gagner en proportion, ou de gagner peu, même rien, et d'être déchargé de toute contribution? Quant à moi, mon parti est pris, et je me décide en faveur de la première proposition. J'ai l'expérience pour moi, et aussi, je crois, les meilleures opinions. La partie fondamentale de la science d'un vrai politique est de savoir maintenir la balance entre le pouvoir d'acquérir, qui appartient au sujet, et les besoins de l'État auxquels ils doivent fournir. Les moyens d'acquérir sont les premiers en temps et en arrangement. Le bon ordre est le fondement de toutes les bonnes choses. Pour que le peuple soit capable d'acquérir, il faut que, sans être esclave, il soit maniable et obéissant. Il faut que les officiers publics jouissent de leur dignité, les lois de leur autorité. Il ne faut pas que par des manœuvres on ait déraciné de l'esprit du peuple les principes naturels de l'obéissance. Il faut qu'il respecte les propriétés au partage desquelles il n'est pas appelé. Il faut qu'il travaille pour acquérir ce que l'on peut obtenir par le travail. Et lorsqu'il trouve, comme cela arrive souvent, que ses succès ne sont pas proportionnés à ses efforts, il faut qu'il apprenne à chercher ses consolations dans les proportions finales de la justice éternelle. Quiconque le prive de cette consolation anéantit son industrie et coupe la racine même de toutes ses acquisitions et de toutes ses conservations. Celui qui agit ainsi est le cruel oppresseur, l'ennemi le plus impitoyable du pauvre et du malheureux. En même temps, par ses spéculations perfides, il expose les produits de l'industrie qui prospère et les accumulations de la fortune à être pillées par les négligents, par ceux qui se sont ruinés ou par ceux qui n'ont pu réussir à rien. Un trop grand nombre de financiers par État ne voient dans le revenu public qu'argent, circulation, annuités à vie, tontines, rentes perpétuelles ou toutes les menues marchandises de la boutique. Dans un État bien ordonné, toutes ces choses ne doivent pas être méprisées, et l'on ne doit pas regarder avec indifférence la science qui les a pour objet. Elles sont bonnes, mais elles ne sont bonnes qu'autant qu'elles participent aux effets de ce bon ordre établi, et que c'est sur lui qu'elles reposent. Mais lorsque des âmes s'imaginent que ces inventions misérables pourront servir de ressources pour les maux qui résultent de la destruction des fondements de l'ordre public, et de la subversion de tous les principes de la propriété, ils ne feront autre chose qu'élever sur les ruines de leur propre patrie un monument affligeant et durable des effets d'une politique inconsidérée et d'une sagesse présomptueuse, bornée et peu prévoyante. Les effets de l'incapacité que vos chefs populaires ont montrée dans les parties les plus importantes du gouvernement seront tous rachetés par ce grand mot de liberté, ce mot qui remédie à tout. Je connais quelques peuples qui jouissent d'une grande liberté. Il en est plusieurs, si ce n'est le plus grand nombre, qui gémissent sous une servitude avilissante. Mais qu'est-ce que la liberté sans la sagesse et sans la vertu? C'est le plus grand de tous les maux possibles, car c'est à la fois la déraison, le vice et la folie, sans limites et sans freins. Ceux qui savent ce qu'est une liberté vertueuse ne peuvent pas supporter que des têtes extravagantes la privent de ses charmes, en la réduisant aux mots sonores qu'ils ont sans cesse à la bouche. À coup sûr, je suis loin de mépriser les sentiments sublimes et exaltés de la liberté. Ils échauffent le cœur, ils élèvent et anoblissent nos esprits. Ils raniment notre courage au moment du combat. Tout vieux que je suis, je lis encore avec plaisir les beaux morceaux pleins de verve de Lucain et de Corneille. Je ne condamne pas davantage les petits artifices et certaines tournures de popularité. Ce sont des moyens pour faciliter le développement de beaucoup de points importants. Ils réunissent le peuple, redonnent des forces à l'esprit et répandent quelquefois la gaieté sur le front sévère de la liberté morale. Tout politique devrait sacrifier aux grâces et réunir l'aménité à la raison. Mais dans une entreprise telle que celle de la France, tous ces sentiments subsidiaires et ces artifices sont d'un faible secours. Il ne faut pas une grande prudence pour fabriquer un gouvernement. Fixer le siège du pouvoir, enseigner l'obéissance, et l'ouvrage est fini. Il est encore plus aisé de donner la liberté. Il n'est pas nécessaire de conduire, il suffit d'abandonner les rênes. Mais former un gouvernement libre, c'est-à-dire tempérer l'un par l'autre ces éléments opposés de liberté et de contrainte, en un seul ouvrage durable, voilà ce qui exige la profondeur de la pensée, de la réflexion et toutes les combinaisons d'un esprit éclairé. C'est là ce que je ne trouve point dans les chefs de votre Assemblée nationale. Peut-être n'en sont-ils pas aussi misérablement dénués qu'ils le paraissent. J'aime mieux le croire. Ce serait les placer au-dessous du niveau de l'intelligence la plus commune. Mais lorsque des chefs se plairont à se rendre à l'envi l'un de l'autre les enchérisseurs de la popularité, leurs talents ne seront d'aucune utilité dans la composition de l'État. Ils deviendront des flatteurs au lieu d'être des législateurs. Ils seront les instruments et non les guides du peuple. S'il arrivait que quelqu'un parmi eux proposât un plan de liberté, raisonnablement limité et justement défini, il serait aussitôt surenchéri par un autre de ses compétiteurs qui produirait quelque chose de plus splendidement populaire. On paraîtra suspect en restant fidèle à sa cause. La modération sera signalée comme la vertu des lâches et les moyens termes comme la prudence des traîtres, jusqu'à ce que, dans l'espoir de conserver le crédit qui peut lui être nécessaire dans certaines occasions, le chef populaire soit forcé de propager avec activité des doctrines et d'établir des pouvoirs qui détruiront dans la suite les dispositions modérées vers lesquelles il aurait pu se diriger. Mais serais-je assez déraisonnable pour ne découvrir absolument rien qui méritât quelques éloges au milieu de tous ces travaux infatigables de l'Assemblée nationale? Je ne disconviens pas que, parmi un très grand nombre d'actes de violence et de folie, elle ne puisse avoir fait quelque bien. Ceux qui détruisent tout ne peuvent pas manquer de détruire quelque mal. Ceux qui font tout à neuf ont des chances pour faire quelque chose d'avantageux. Pour louer ces messieurs sur ce qu'ils ont fait en vertu de l'autorité qu'ils ont usurpée, ou pour les justifier des crimes par lesquels ils ont acquis cette autorité, il faudrait qu'il fût bien évident que les mêmes choses n'auraient pu s'exécuter sans produire une telle révolution. Très certainement ils l'auraient pu, parce que toutes les opérations importantes qu'ils ont faites, et ceci est hors de doute, portaient sur des points qui leur avaient été volontairement accordés d'avance par le roi, lors de la réunion des États généraux, ou par l'expression positive des cahiers des différents ordres. Quelques usages ont été détruits d'après de justes motifs, mais ces usages, eussent-ils duré jusqu'à l'éternité dans l'état où ils étaient, n'auraient troublé en aucune manière la prospérité ni le bonheur d'aucun état. Le bien que l'Assemblée nationale a fait est superficiel et ses erreurs sont fondamentales. Je souhaite que mes compatriotes, quels qu'ils soient, aiment mieux recommander à nos voisins l'exemple de la Constitution anglaise que de prendre modèle sur eux pour l'amélioration de la nôtre. Ils possèdent un trésor inappréciable dans l'ancienne. Je crois qu'ils ne sont pas tout à fait exempts de quelques motifs de crainte et de plainte. Mais c'est à leur conduite, et non pas à leur constitution, qu'il faut s'en prendre. Je crois que nous devons notre heureuse situation à notre constitution. Mais je pense que c'est à son ensemble, et non pas à quelqu'une de ses parties séparément, que nous la devons. Je crois que nous la devons autant à ce que nous avons conservé dans nos diverses recherches et dans nos réformes, qu'à ce que nous avons modifié ou ajouté. Notre nation trouve que le soin de conserver ce qu'elle possède et de le mettre à l'abri de la violation suffit à l'occupation d'un esprit vraiment patriote, libre et indépendant. Je n'en exclurai pas non plus quelques changements, mais même en changeant, je voudrais n'être conduit à nos réformes que par de grandes nécessités. Dans ce que je ferai, je voudrais suivre l'exemple de nos ancêtres. Je voudrais que la réparation fût, autant que faire se pourrait, conforme au style de l'édifice. L'esprit de conduite que nos ancêtres ont toujours le plus manifesté était remarquable par la prudence de leur politique, par la sagesse de leur circonspection et par une timidité qui venait de leur réflexion plus que de leur caractère. N'ayant point été éclairés par les Lumières, dont ces messieurs de France nous assurent qu'ils ont reçu une portion si abondante, ils agirent sous l'impression forte de l'ignorance et de la faillibilité humaine. Celui qui les avait créés ainsi faillibles les récompensa pour s'être conduits conformément à leur nature. Imitons leur prudence si nous souhaitons de mériter les mêmes succès ou de conserver leur héritage. Ajoutons, si cela nous plaît, mais conservons ce qu'ils ont laissé. Et appuyés sur les bases solides de la Constitution anglaise, contentons-nous d'admirer, plutôt que d'essayer de suivre dans leur vol désespéré, les aéronautes de la France. Je vous ai dit avec franchise mes sentiments. Je pense qu'ils ne sont pas de nature à altérer les vôtres. Je ne sais pas s'ils le pourraient. Vous êtes jeune. Il faut que vous suiviez le sort de votre patrie, puisque vous ne pouvez pas le diriger. Mais, par la suite, ils pourront vous être de quelque utilité dans la forme que pourra prendre votre gouvernement. Il ne peut rester dans l'état où il est aujourd'hui. Mais, avant qu'il prenne son assiette définitive, il peut être obligé de passer, comme dit un des poètes, par une grande variété de situations inconnues. Et dans toutes ces métamorphoses, être purifié par le feu et par le sang. Mes opinions ne peuvent avoir de valeur que parce qu'elles sont le fruit d'une longue suite d'observations et qu'elles sont dictées par une grande impartialité. Elles viennent d'un homme qui n'a été ni l'instrument du pouvoir, ni le flatteur des grands, et qui ne pouvait pas démentir par ses dernières actions celles de toute sa vie. Elles viennent d'un homme dont presque toute la carrière fut un combat pour la liberté des autres, d'un homme à qui la tyrannie seule put inspirer quelques sentiments d'une colère véhémente ou durable, et qui a dérobé, sans qu'il croie même s'être écarté de ses occupations ordinaires, les heures qu'il a données à l'examen de vos affaires, à la part qu'il ne cesse de prendre aux efforts que font tous les bons citoyens pour décréditer l'oppression de l'opulence. Elles viennent d'un homme qui souhaite peu les honneurs, les distinctions et les émoluments, et qui n'en attend aucun, qui ne méprise pas la renommée et qui ne craint pas la médisance, qui évite les contestations, quoi qu'il hasarde son opinion. D'un homme qui souhaite d'être toujours conséquent, mais qui voudrait l'être en variant ses moyens afin d'assurer l'unité de son but, et qui, lorsque la stabilité du vaisseau sur lequel il navigue peut courir quelques dangers par la surcharge de l'un ou de l'autre de ses bords, est toujours disposé à porter le faible poids de ses raisons du côté qui peut rétablir l'équilibre.